le Canada met de l'avant des politiques d'extrême gauche. Ce genre, les idéologies à la mode en ce moment sont hyper, hyper renforcées. Elles ne sont pas renforcées juste verbalement, elles sont financées. Mais là, depuis 3-4 ans, c'est comme la fin du monde, tu sais, de dire qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des différences cérébrales entre les hommes et les femmes, des différences cognitives, des différences biologiques, des différences de personnalité. Là, c'est rendu tout à tel enfer de parler de psychologie, puis tout le monde s'invente connaissant, puis là, c'est, tu marches sur des œufs, ça va-tu être compliqué, là, t'as un article ici, oups, là, t'as un nouveau thread contre toi. Qui est... La violence, maintenant, ça devient une espèce de bouclier anti-émotion négative. Donc, pour neutraliser une personne qui te fait vivre des émotions négatives, donc la seule façon, c'est de le traiter en méchant. Donc, un méchant est violent. La plupart des discussions humaines créent des inconforts parce que la plupart des discussions humaines veut dire qu'on s'entend pas. À un moment donné, on n'a pas une même vision des choses en cours de dialogue.
Peut-être connaissez-vous Guillaume Dulude pour avoir vu passer des vidéos de lui. Il a son site Psycom où il enseigne comment faciliter la communication et les relations interpersonnelles. C'est un personnage que je trouvais très intéressant. Vous m'avez recommandé de l'inviter, alors je vous ai écouté. Guillaume Dulude a choisi de ne pas faire partie de l'ordre des psychologues, même s'il a son doctorat en psychologie, recherche et clinique. Il voulait être libre de parole. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs thèmes, dont la masculinité, l'idéologie autour de l'identité de genre, et on a même eu un débat sur la grande question de l'injection COVID. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Délo veut savoir. Ça fait un petit moment que j'ai sorti un épisode et aujourd'hui, c'est un invité spécial que je suis très contente d'avoir avec moi, c'est Guillaume Dulude. Salut Guillaume.
Allô Héloïse.
J'aurais tant aimé t'avoir avec moi dans mon studio, mais t'es si loin.
On va se reprendre, t'es à Montréal, ça fait signe.
Absolument, ben, t'es le bienvenu dans mon studio. Pour l'instant, on fait ça comme ça. T'es en Afrique en ce moment, donc j'aime mieux dire à tout le monde, vive la technologie, mais il y a quand même la petite imperfection des fois d'Internet. Ça peut saccader un petit peu, les gens comprendront. Aujourd'hui, ben, premièrement, je vais commencer par te présenter. C'est pas tout le monde qui sait t'es qui. Alors, allons-y. Tu peux. Il y a tellement de choses, je ne vais pas prendre 5 minutes pour te présenter. J'ai fait une sélection. Alors, sur ton site web, ça dit que t'es auteur best-seller spécialisé en psychologie des relations humaines. Tu donnes de la formation en ligne. D'ailleurs, ton site s'appelle psycom, je pense, .com. Exact. Et tu as un doctorat en psychologie, recherche et clinique. Cependant, tu n'es pas dans l'ordre des psychologues. Ça aussi, on pourra y revenir. Et c'est pour ça que je ne te présente pas comme psychologue. Et les gens peuvent t'avoir aussi connu là, sur la chaîne TV5, tu as un show super bien fait qui s'appelle Tribal, où tu t'en vas dans plein de cultures, on te voit te dépayser totalement et te faire accepter de peuple nomade. Alors, en gros, c'est comme ça, les gens peuvent te connaître, tu es assez connu sur Internet, on voit souvent passer tes vidéos, moi je te connaissais un peu de loin, et un jour j'ai fait une demande sur Internet qui je devrais recevoir en entrevue, et j'ai eu plus de 1000 commentaires. Alors, je n'ai pas invité tout le monde que les gens ont mis en commentaire, mais Guillaume, quelqu'un t'avait suggéré, puis on m'avait déjà parlé de toi, puis je savais que tu brassais un peu la cage, t'es comme l'archétype mâle, et être un archétype mâle, ça dérange en 2024. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de masculinité avec toi. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un homme, Guillaume?
Un homme, c'est un adulte de sexe masculin, je dirais.
Ah oui, c'est la définition du dictionnaire, en tout cas. Là-dessus, on devrait s'entendre, mais on dirait que c'est en ce moment, c'est comme si on a perdu nos repères. Est-ce que tu es témoin de cette perte de repères-là? Est-ce que tu la vois aller?
Oui, à différents niveaux. Définitivement, on est dans une perte de repères, mais je dirais plus que la perte de repères semble plus une conséquence du refus des balises auxquelles qu'on a utilisées pour structurer notre société. Donc, on est plus en protestation des éléments de repères qui structurent ou qui modèlent notre société. Et cette rébellion-là crée une espèce de cancellation de repères. Et c'est sûr que si tu cancelles tes repères ou si tu discrédites tes repères qui permettent aux gens de s'orienter, de se structurer entre eux, mais les conséquences, c'est que tu ne peux plus faire confiance en tes repères ou que les repères sont maintenant mal vus, OK? Donc, ou symptômes d'une société qui est corrompue ou oppressante, OK? Et donc, ça veut dire que si les repères de base ne sont plus là, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses des nouveaux. Donc, OK, mettons qu'on joue à ça. Comment tu fabriques des nouveaux repères à partir de rien? À partir de ce qui n'est pas dans la réalité? Ben, OK, ben, qu'est-ce qui nous reste? Ce n'est pas la réalité objective. Ben, il va rester mes sensations, mes émotions, mes pensées, mes opinions. Ouais. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des repères qui permettent de fonctionner ensemble. Ce sont des repères qui peuvent tenir la route jusqu'à un certain point, mais dans ta tête, à toi, dans ton propre fonctionnement. Mais si tu veux collaborer avec les autres, si tu ne veux pas être tout seul dans l'univers, ben, ça prend des repères auxquels d'autres peuvent s'identifier, on est capable de voir. Donc, les repères qu'on appelle subjectifs ont des limites. Et c'est pour ça qu'on veut d'une part nier des repères parce qu'on les aime plus, parce qu'on dit qu'ils sont plus bons, pour toutes sortes de raisons. Et on dit, OK, mais je vais en faire d'autres, mais d'un autre côté, je suis tout seul avec mes repères. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas capable de plus s'organiser. Donc, on est comme les fesses entre deux chaises présentement. Donc, je résume ça.
Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant en anglais sur YouTube et X. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a tellement de choses que tu dis là-dedans. C'est sûr que ça m'amène à... On est beaucoup dans une culture de victimisation. C'est comme si on est allé virer très loin. T'sais, mettons qu'on prend juste l'exemple du MeToo. Moi, je pense que c'était une très bonne chose que MeToo arrive. C'était très bien. Je l'ai dit souvent sur ma chaîne. Je fais partie de ces personnes qui ont arrêté de faire de la musique dans l'industrie musicale, même aux États-Unis, parce que j'ai eu le MeToo sans arrêt. Là. Ce n'était que ça, ma vie de 17 à 25 ans. MeToo, MeToo, MeToo. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce ne sera pas pour moi l'industrie de la musique, finalement. Puis je suis partie sans avoir quand même des blessures de ça. Fait que quand MeToo s'est mis à sortir, j'étais, enfin, on va pouvoir avoir une discussion publique par rapport à ça, par rapport au harcèlement sexuel que les femmes vivent, parce que c'est souvent des hommes, les producteurs, puis il y a comme le rapport toujours de « on veut une carrière, on veut une carrière, on est prête un petit peu à n'importe quoi ». Pas moi, mais il y en a d'autres que oui. C'était bien qu'on ait une discussion publique, c'est bien que des femmes se soient mises à dénoncer sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag MeToo, mais là, c'est allé à l'extrême où n'importe qui, un jour, peut être un petit peu offusqué de quelqu'un qui s'est comporté d'une façon bizarre avec. On le met sur Instagram, on fait une story, telle personne, puis là, ça devient un lynchage public. Cette personne-là n'a plus de carrière. Tu sais, on est allé tellement virer à l'extrême parce que du moment que quelqu'un s'identifie comme victime, cette personne-là est glorifiée. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, c'est que si on essaie d'enlever les repères dont j'ai parlé tantôt, OK, ça veut dire si on se dit OK, il faut reconstruire une société qui n'est pas mauvaise, mais une bonne selon nos nouveaux critères, OK? Mettons qu'on fait ce postulat-là, c'est-à-dire toutes les formes d'oppression, toutes les injustices, tout ça, c'est relié à la structure sociale, c'est la structure. Puis il y a toutes sortes de façons de le nommer, puis on pourrait rentrer là-dedans. Mais bref, il faut refaire la société. Tu fais « OK, ben faut la refaire. » Mais c'est comme « Selon quoi et selon quels critères? » Alors là, s'il n'y a plus de critères objectifs, ça veut dire que c'est comme une espèce de terrain ouvert et les personnes qui peuvent s'emparer de quoi que ce soit peuvent dicter une nouvelle forme de tyrannie. Donc, n'importe quel terrain ouvert va être sujet à « le plus fort l'emporte ». OK, les humains, ça se bat entre eux. Les animaux, ça se bat entre eux. Ça se bat pour des ressources limitées. Les humains ne sont pas plus... je veux dire, ils ont quelque chose de très, très animal, très, très basique là-dedans. C'est-à-dire, ils se distribuent en hiérarchie. Même si on ne veut pas l'admettre, ils se distribuent comme les personnes les plus dominantes versus un peu moins dominantes, une forme de distribution là-dedans. Tu as des ressources limitées. Donc, évidemment, les personnes qui sont les mieux placées dans une structure sociale vont avoir accès à plus de ressources. Bref, comment des humains luttent aujourd'hui? Bien, il y a différentes luttes possibles, puis il y a une façon de tuer ton adversaire de différentes façons. Donc, on sait très bien qu'une guerre, où, tu sais, ça sert à tuer ton ennemi, puis tu vas envahir un territoire, puis là, tu tues ton ennemi, puis là, tu prends le territoire en charge, puis là, tu trouves des raisons d'avoir triomphé. Donc, toute guerre doit être motivée par une victoire qui est glorieuse, et qui correspond à une quête divine ou je dirais, vertueuse. Ça, c'est très important. Toutes les guerres du monde, tu ne peux pas vendre une guerre s'il n'y a pas de drapeau élégant à brandir. Ce n'est pas possible, parce que sinon, tu es un tueur. Donc, il n'y a pas de guerre qui font comme ça. Même les guerres les plus tyranniques, même les plus grands meurtres là, de masse, sont toujours faits sur une bannière vertueuse, parce que c'est comme ça que les humains abrient le truc, OK?
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
Rien de nouveau là-dedans. Donc, OK, mettons qu'on dit, secrètement, j'ai un territoire libre, parce que j'ai plus de repères. Donc, c'est une opportunité. Mais maintenant, en fonction du timing, puis en fonction de ce qui est possible de faire, mais tu peux dire que si moi, j'accuse certaines personnes d'être des mauvaises personnes, c'est la façon de couper la tête de mes adversaires. Donc, comment tu fais pour couper des têtes maintenant? Bien, il faut que tu pointes publiquement de l'oppression, un méchant. OK? Puis avec les médias sociaux, ça va super vite. Ça se fait très bien. Donc, tu n'as plus besoin vraiment de bouger de ton ordinateur pour gagner une guerre ou d'avoir des skills de combat en particulier ou aller. Tu sais, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu articules une vision des choses où il y a des méchants et tu dois t'occuper à couper la tête de ces méchants-là. Et la façon de trouver des méchants, c'est que tu dois te positionner comme victime. Parce qu'une victime, c'est puissant parce que c'est une personne qui peut dire qui est le bon et qui est le mal. Donc, évidemment, la personne victime est le bon et la personne qu'elle pointe, c'est le mal. Et comme les humains ne sont jamais pour le mal, ça veut dire que c'est comme une garantie d'être du bon côté.
Ouais.
Donc, le but, c'est de pointer le mal, tu coupes la tête du mal et ce qui te donne cette garantie-là, c'est qu'il faut que tu maintiennes absolument ta posture de victime. Donc, la posture de victime ne vise pas à réellement créer un équilibre de justice pour trouver une relation positive avec l'environnement. Donc, contrairement à ce qu'une victime, mettons, devrait rechercher, ce que la plupart des victimes recherchent, en fait, hein, c'est pas parce que tu as la victimisation et tu as la posture de victime, là, si tu veux, là, les victimes parfaites. Quand on est en victimisation, ce que tu veux, c'est maintenir un statut de victime. C'est pas vraiment faire justice, puis on est correct, puis on peut aller ensemble vers le mieux. C'est un jeu de pouvoir. Donc, c'est là où le mot victime rend beaucoup de confusion parce qu'on dit, ben non, il faut aider les victimes. Oui, mais la victimisation, c'est différent d'être une victime parfaite.
Ouais.
La victimisation, le processus par lequel tu maintiens un statut d'autorité, qui est un statut d'autorité de victime. Donc, la victimisation, dans le fond, c'est une quête de pouvoir et qui est efficace seulement maintenant. Il y a 50 ans, ça ne fonctionnait pas vraiment, cette posture-là. Aujourd'hui, ça marche pour mille et une raisons hyper complexes, mais maintenant, quand tu es une victime, tu as un pouvoir. Et lorsque plusieurs victimes se mettent ensemble sous un thème, tu as un pouvoir absolument incroyable. Mais ce n'est pas vraiment la quête d'avancer qui te mène. C'est une quête de pouvoir. Donc, c'est tout simplement une guerre contre une autre guerre, mais c'est déguisé sous ce thème-là. Donc, je vais arrêter là-dessus. C'est grosso modo ce qui se passe.
Encore une chose, je vois beaucoup de choses qui sont sorties de ça. Tu as parlé du bien et du mal. Je trouve que c'est le danger en ce moment de notre société. Puis écoute, j'ai pas vécu d'autres époques, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup la tendance à être polarisé puis mettre tout dans des boîtes, c'est bon ou mauvais, les gentils, les méchants, sur tous les sujets. Puis à cause de ça, on est constamment divisé. Il faut retrouver un terrain où on réalise qu'on a beaucoup plus, où on partage beaucoup plus de valeurs communes, qu'on a des différents. Et je me demande comment on peut commencer cette espèce d'étape de réconciliation où on s'aperçoit qu'on a tellement plus en commun. Un gros mandat, hein?
Oui, bien, très humblement, moi, j'essaie d'aller dans ce sens-là par ce que je fais. Je pense qu'il y a une question définitivement de briser l'isolement et d'avoir des meilleures habiletés relationnelles. Ça, c'est une chose, parce que l'isolement va toujours te mettre en porte-à-faux versus l'environnement.
Qu'est-ce que tu entends par l'isolement?
L'isolement, c'est se sentir seul, se sentir incompris, se sentir pas aimé, se sentir rejeté des autres, se sentir exclu, évidemment... Les personnes qui s'excluent elles-mêmes dans leur tête, qui s'autodiscréditent, qui s'autodévalorisent, ont tendance à, dans les faits, s'isoler.
Ouais.
Donc, il y a un paquet de processus où tu te sépares de la société, où tu te déconnectes. Ce processus-là est très dangereux parce qu'à partir du moment où une personne se déconnecte, si elle veut survivre, il faut qu'elle dirige sa colère sur quelque chose. Et comme une personne est déjà fragile, elle n'est pas capable de diriger sa colère contre elle-même et transformer ça en responsabilité dans le genre de « je dois faire quelque chose, je dois faire un plan, je ne peux pas en vouloir à la société au complet, je dois faire quelque chose ». Donc, ça prend déjà beaucoup d'énergie pour qu'une personne ait le courage de faire ça. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont simplement mettre leur attention sur ce qu'ils pensent qui les fait souffrir dans l'environnement. Et donc, par conséquent, l'élément oppresseur ou l'élément qui te fait du mal est dans l'environnement. Mm-hmm. Donc, cette déconnexion-là crée une hargne contre l'environnement. Donc, une des choses que je pense qu'on peut faire, c'est toujours mettre l'emphase sur des habiletés de communication, des habiletés relationnelles, se parler, oui. Même si on a des émotions négatives, même si on n'est pas d'accord, de résister à la violence et résister à la colère due au fait qu'on ne s'entend pas ou qu'on pense différemment. Donc, résister à ces impulsions-là qui sont normales, ce sont des impulsions normales, mais elles ne sont pas bonnes fondamentalement. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut renforcer. La deuxième chose, je pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est que je pense que ça rejoint ta première question qui était « est-ce qu'on est en manque de repères? » C'est que si tu n'as pas de repères, tu ne peux pas te propulser sur quoi que ce soit pour avancer.
Oui.
Et le problème, c'est que les humains ne fonctionnent en santé uniquement que s'ils avancent. Donc, avancer veut dire être en mouvement directionnel vers quelque chose qui a du sens. C'est sentir que tu grandis, qu'il y a une expansion dans toi sous toutes ses formes, mais c'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'espèce de fondement là, du sens, si je peux dire. Et si on veut que les gens arrêtent de se polariser, là, tu parlais des bons contre les méchants, si on veut arrêter que ce soit la préoccupation principale, puis que le monde redevienne nuancé, ça veut dire qu'il faut trouver une façon qu'on n'est ni bon ni méchant, et là, les autres ne sont ni bons ni méchants, mais on avance ensemble, puis on veut collaborer ensemble vers quelque chose de plus, même si c'est hyper difficile, parce qu'il n'y a rien de miraculeux chez les humains.
Non.
Pour ça, ça prend beaucoup de courage, il faut accepter des choses, il faut s'accepter, il faut accepter le fait que oui, on veut améliorer notre qualité de vie, puis oui, on veut des choses, puis il faut accepter que oui, il y a des différences, puis toutes les différences ne sont pas égales. Tu as des différences qui sont réellement meilleures pour certaines choses. Tu as des différences qui sont moins bonnes pour d'autres choses. Donc, tout n'est pas égal dans la vie. C'est un paquet de nuances. Mais ça veut dire que c'est très, très complexe aussi. Puis parce qu'accepter ça veut dire accepter non seulement la complexité de soi, mais la complexité de l'environnement. Donc, il y en a pour qui ça fait peur. Fait qu'imagine, tu n'as pas de sens à ta vie. Tu te sens déjà fragile, mais tu ne veux pas te l'admettre. Est-ce que tu veux un monde encore plus complexe que c'est? C'est comme non, tu vas essayer de le simplifier au maximum. Mais c'est un cercle vicieux. Plus tu veux simplifier les choses, plus tu vas te réfugier dans des, par exemple, des identités qui sont soit dans les bons, dans les méchants. Alors que l'identité n'est pas une priorité. Parce que c'est comme combien il y a d'identités, combien il y a de labels? Une infinité. Comme Héloïse Bois, elle a combien de labels? Une infinité, mais il y a une seule Héloïse Bois, c'est une identité qui est propre. Bon, alors ça, c'est ce qui s'appelle l'individu. Mais là, en ce moment, on est tellement dépourvu de ressources mentales, psychologiques et de repères que le repère principal, c'est des groupes. Donc, c'est pour ça qu'on sursimplifie le monde, mais tu ne peux pas être toi si tu le sursimplifies. Fait que le coût de ne plus être soi, aussi complexe on peut s'être, le coût de refuser ça est très grand. C'est-à-dire, je refuse d'être un individu à part entière, mais je vais être soulagé à court terme parce que je vais faire partie d'un groupe virtuel ou un groupe avec un label, avec un statut. C'est comme le coût est très grand d'aller là.
Mais c'est un besoin fondamental d'appartenir à un groupe. On l'a vu dans les dernières années particulièrement. T'sais, on a vécu énormément de divisions, beaucoup, beaucoup au Québec. Là. Ben, je suis au Québec, fait que c'est sûr que je parle de mon expérience, mais... T'sais, tu parlais tantôt, tu as dit résister à la violence. Puis j'ai trouvé ça intéressant que tu dises ça parce que je me disais, la violence est souvent déguisée, je trouve. Elle se déguise aussi en vertu. Par exemple, j'essaie vraiment toujours de penser diamétralement opposée à ma perspective. J'essaye. Là. Ouais. Mettons qu'on prend l'exemple du wokisme dans la jeunesse, dans la littérature jeunesse. Moi, je m'oppose à ça. Je ne suis pas d'accord que les gens, c'est un spectre. Pour moi, c'est binaire, puis c'est tout. OK, ça, c'est ma position. Ouais. Puis c'est une idéologie, donc, pour moi, l'identité du genre. Alors, je n'ai pas envie que mes enfants, qui sont très, très jeunes, soient exposés à ça. Mais là, j'essaie vraiment, parce que c'est sûr, ça dérange. Il y a plein d'amis qui ne nous parlent plus, surtout les amis de mon conjoint. C'est ça, on est des méchants. On a sombré dans l'enfer. On doit être des complotistes. On n'est plus capable de penser. On doit être dans une secte. Tout ça parce qu'on n'a pas adhéré à cette idéologie-là. Puis là, j'ai vraiment essayé de m'expliquer avec quelqu'un. Je me disais, on peut ne pas être d'accord. Là, j'ai essayé donc d'amener mon point de vue. Puis tout ce que cette personne-là voulait, qui était très, très agressive, c'était que je me repentisse. C'était, j'ai commis un crime contre les trans, parce que là, dans ce cas-ci, je m'opposais à... Je trouvais que beaucoup d'hommes étaient nommés femmes de l'année. Là, c'était ça, ma publication que j'avais faite. Je me disais, c'est un petit peu insultant pour la femme quand même. Là, ouais. Ils ne savent pas c'est quoi avoir des menstruations. Ils n'ont aucune idée c'est quoi avoir des... Non, moi, j'étais dans mon SPM hier, là, puis tu sais, on le vit, là, le SPM, mais je m'excuse, mais quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, il ne peut pas savoir foncièrement qu'est-ce que c'est être une femme. Je suis désolée, c'est tout. Bon. Puis, c'est pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là qui adhèrent à cette idéologie-là, qui trouvent que je suis transphobe ou qui trouvent que ce que je dis, c'est violent, c'est de la haine. Moi, ça ne vient pas du tout d'une place de haine. C'est parce que j'aime les femmes, puis je veux que les femmes qui se sont battues depuis des décennies aient le droit de ne pas être cancellées dans la sphère publique, aient le droit de revendiquer pour elles être des femmes, c'est avoir un utérus, puis ça fait pas, tu sais, il y a quelque chose de biologique. Mais pour ces personnes-là, je suis violente. Tu comprends? C'est pour ça que je me dis, des fois, comme la violence, ça devient difficile de marcher sa ligne, parce que moi, ma ligne, c'est pas la même que cette personne-là avec qui je m'obstinais. C'est pour ça que tu dis que c'est hyper complexe, parce que la seule façon de rester authentique, c'est de se connaître profondément. Parce que moi, je suis certaine, ce moment-là, je m'affirmais dans mon authenticité par rapport à la façon que j'ai décortiqué la chose. Je me suis confrontée, j'ai parlé avec des trans, j'ai même parlé avec des parents qui ont des enfants trans. Donc, je ne suis pas dans le jugement de ça du tout. Tu sais, je me suis quand même confrontée, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui le font, ils sont convaincus qu'ils font le bien. Puis là, c'est là que ça devient super insidieux. Je me demande comment on jongle avec cette fameuse violence. On ne veut pas être violent, mais comment on fait pour ne pas l'être? C'est comme à peu près impossible, je trouve, de nos jours.
Oui.
C'était gros, hein, comme prémisse.
C'est parce que c'est compliqué comme question. C'est compliqué à décortiquer.
Ouais.
Le problème avec le mot qu'on utilise comme étant la définition de la violence, c'est que ce n'est pas basé sur des ententes de qu'est-ce qu'il y a de la violence. C'est basé sur des sentiments d'être dérangé. Okay? Ouais. Mais c'est que c'est tellement vaste et personnel, le fait d'être dérangé ou pas, et les gens sont de plus en plus sensibles. Okay, fait que c'est très, très connu là, dans la littérature. C'est plus le temps avance, plus les générations avancent, plus les générations sont sensibles émotionnellement. Donc, plus ils sont évitants émotionnellement, plus ils ne veulent pas ressentir d'émotions négatives. Donc, la violence, maintenant, ça devient une espèce de bouclier anti-émotions négatives. Donc, pour neutraliser une personne qui te fait vivre des émotions négatives. Donc, la seule façon, c'est de le traiter en méchant. Donc, un méchant est violent. Donc, une personne violente, c'est comme la même stratégie que traiter la personne de méchant. Donc, si une personne est violente, tu as automatiquement le pouvoir de la discréditer. Donc, c'est comme il y a des mots magiques qui servent en fait à se protéger dans une fausse armure. Donc, c'est ça, c'est parce que le mot violence est utilisé maintenant pour tout ce qui crée une forme d'inconfort, alors que la violence, ce n'est pas ça. Tu sais.
Oui.
Être en désaccord ne peut pas être violent. Puis pourquoi ça peut ne pas être violent? Parce que si ça serait le cas, ça veut dire que, en fait, la plupart des discussions humaines créent des inconforts parce que la plupart des discussions humaines veut dire qu'on ne s'entend pas. À un moment donné, on n'a pas une même vision des choses en cours de dialogue. Donc, ça revient à dire que le fondement des interactions humaines, c'est de la violence. C'est comme, t'es aussi bien de dire que les humains sont mauvais par essence. Ils ne devraient pas exister. Si c'est vrai que les humains sont violents à partir du moment où ils émettent des idées, que ce n'est pas exactement calqué sur l'autre, on est aussi bien de dire que la nature humaine est une violence et par conséquent, la nature humaine devrait ne pas exister. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que la personne qui traite les autres de violents, elle est violente aussi. Donc, c'est là où quand on essaie de juste penser logiquement, ça ne tient pas la route pour ce genre de pensée-là d'extrême gauche. La logique ne tient très, très rarement la route. Et c'est ça le problème de la gauche extrême qui tue. C'est que c'est un cercle vicieux qui tourne autour des émotions. Et quand on essaie de comprendre la logique des choses, ça s'écroule au bout de 3 secondes. Et aussitôt que tu questionnes une personne comme ça, elle se sent prise dans un coin parce que effectivement, elle n'a pas la logique pour expliquer fondamentalement quel est le fond de sa pensée, en quoi est-ce logique, quel est le lien entre ces différentes idées. Elle n'est pas capable d'élaborer sur sa pensée. Donc, le seul fait de questionner une personne, elle va prendre ça comme étant de la violence.
Ouais.
Donc, c'est comme, OK, si toi, tu ne te sens pas capable de répondre, ça veut dire que les gens qui te posent des questions sont violents par automatisme. Donc, il y a un paquet de problèmes dans cette façon-là de penser qui est carrément anti-relation. C'est anti-survie humaine. Donc, si on disait, oui, mais peut-être que dans le fond, ils ont raison, c'est que si on voulait faire ça à grande échelle et on voulait vraiment vivre comme ça, il n'y aurait pas d'humanité. C'est impossible de fonctionner comme ça. Donc, c'est pour ça que ça ne tient juste pas la route logiquement.
Puis on dit aussi, tu parles d'extrême gauche, j'essaie de ne pas tomber dans la gauche, la droite, parce que pour moi, ça ne veut plus vraiment rien dire. Je me suis toujours considérée de gauche, puis ça a l'air qu'en ce moment, je suis rendue de droite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pour ça que je trouve que ça ne tient plus vraiment la route. Mais pour que les gens comprennent de quoi on parle, dans l'extrême gauche aussi, on dit qu'on est responsable du mal qu'on fait aux autres par nos paroles, constamment. Moi, personnellement, je vois comme... j'ai étudié en psychologie aussi, j'ai fait le CRAM à Montréal, le Centre de relations d'aide de Montréal. Bon, je m'intéresse à la psychologie, puis la première chose qu'on apprend, c'est qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, puis ça a changé ma vie, de comprendre foncièrement ça. Puis là, c'est comme si on nous dit que non, en fait, t'es pas responsable, c'est lui qui est responsable de t'avoir fait sentir comme ça. Il y a quelque chose aussi qui nous enlève notre pouvoir parce qu'en se mettant justement, on tombe en position de victime, puis là, faut que j'attende que les autres commencent à changer comment ils sont avec moi pour que je recommence à être heureuse. Est-ce que tu vois ça aussi ou est-ce que selon toi, c'est pas si grave que ça, ce problème-là?
C'est que typiquement, dans ce qu'on appelle la gauche et la droite, OK? La droite est très basée sur l'autodétermination, sur l'automotivation, sur la fougue personnelle de réussir, la discipline, ce genre de le travail soutenu, l'acharnement, tout ça. C'est très basé sur sa propre responsabilité. Ça, c'est des valeurs un peu plus conservatrices, OK, qu'on va dire un peu plus de droite, OK. Mais la gauche, c'est plus basé sur le fait qu'il y a des gens qui ont moins d'habileté, puis qui ont moins de systèmes, puis de ressources, mais ils subissent les conséquences de l'environnement. Donc, ça naît de là. Et l'idée, c'est que ce qui est plus à droite et plus à gauche puisse dialoguer ensemble pour qu'on couvre l'ensemble des préoccupations, c'est-à-dire on s'assure qu'on continue d'avancer, mais aussi qu'on s'assure que le système tient ensemble. Donc, c'est pas qui a raison de qui n'a pas raison, c'est que c'est des valeurs, c'est des lentilles et il faut garder cette tension-là saine entre les deux pour faire en sorte que la colle reste. Donc là, en ce moment, on brise le système de dialogue et si tu brises ça, c'est-à-dire que tu as une polarisation soutenue ou exagérée des deux côtés.
Ouais.
Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est que la gauche nomme le fait qu'il y a des injustices. Il y a des viols aux contrats moraux qu'on se donne entre humains et il y a des gens qui souffrent de ça et qu'il faut avoir une espèce de pensée d'équipe pour s'assurer que ça n'arrive pas ou le moins souvent possible. Donc, c'est ça l'idée de la gauche, c'est que les gens qui ont moins de voix, la gauche fait en sorte que ces voix-là puissent être entendues. Donc, ça, c'est important.
Oui.
Puis la droite, c'est très basé sur le mouvement, la croissance. C'est plus goal-oriented, c'est plus crois en toi, ces affaires-là. Ce qui est aussi important, mais ça reste que c'est un mix que ça prend. Puis ça vaut, là, dans l'histoire, la perception de qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche. Mais ce qui crée la droite et la gauche, c'est des espèces de priorités humaines, si je peux dire. Mais ce sont toutes des priorités qui doivent exister dans une société. D'où l'idée de rester dans le centre, de trouver une façon de rester dans le centre ou de conserver les mécanismes qui empêchent les dérapages, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Oui. Tu as parlé tantôt aussi des réseaux sociaux comme phénomène qui peut créer plus de divisions. Puis pour moi, il y a un phénomène aussi qui est très important, c'est les médias points. En tout cas, au Québec, je trouve qu'ils jouent un rôle super important dans le manque de nuances. Puis c'est ce que je déplore le plus. Je trouve qu'on a entendu constamment, tu sais, sur les plateaux de TV, juste un exemple rapide, mais Guillaume Lemaitre-Vierge, dans toute l'immense polémique qu'il a vécu autour du fameux mot en haine, on lui a refusé de venir s'expliquer, à tout le monde en parle, alors que c'était vraiment le sujet dont tout le monde parlait, mais lui, il n'avait pas le droit. Alors, tout le monde était là pour parler de Guillaume, mais lui, il n'a jamais eu le droit de s'exprimer là-dessus. Donc, pour moi, c'est juste un exemple qui montre à quel point, du moment que tu as été étiqueté méchant, tu n'as plus le droit de parler. Puis moi, c'est un peu le... je trouve ça dangereux parce qu'on est au Québec. Tu sais, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens à ma chaîne qui viennent de France, des gens qui sont controversés en France, professeur Perron, Alexandre Henrion-Code. Mais là-bas, ils ont quand même le droit un peu plus de s'exprimer. Ici, ils ne seraient jamais reçus sur un « Tout le monde en parle » ou sur peu importe quel groupe plateau. Puis toi qui ne vis plus au Québec, tu observes ça donc un petit peu quand même avec du recul. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec qui est propre au Québec, qui est un petit peu alarmant dans cette espèce de pensée unique qu'on cultive?
Je dirais oui. Québec-Canada, là, j'ai de la misère à différencier là, quoi l'aspect canadien versus québécois, en quoi il y a des distinctions tant que ça, mais il y a des grosses corrélations qui sont entre les deux. Le Canada met de l'avant des politiques d'extrême-gauche. Ce genre, toutes les idéologies à la mode en ce moment sont hyper, hyper renforcées. Elles ne sont pas renforcées juste verbalement, elles sont financées. Oui. Donc, ce sont des c'est pas juste des mots, là. Ça va jusque dans le financement, les bourses, le recrutement de différentes fonctions. Ça va très, très loin. Ce qui fait que c'est vraiment rendu dans les veines là, du Canada. C'est pas juste comme médiatiquement, il y a quelques personnes avec des pancartes là, un peu perdues qui sont un peu intimidantes. C'est vraiment dans les veines du Canada. Donc, en tant que province dans le Canada, c'est sûr que... puis on a cette tendance-là aussi, là, très, très sociale là, déjà au Québec. Donc, t'sais, j'ai de la misère à voir tant que ça en quoi le Québec se distingue du Canada. Je trouve que ça va... Il y a peut-être des éléments de différenciation sûrement, mais je pense que ça va quand même dans cette voie-là. Et ça va selon moi hyper, hyper mal parce que il y a d'autres considérations économiques qui vont autour de ça. Il y a toute la prise en charge du système, la volonté d'avancer, le sens du sacrifice, l'éducation, les valeurs dans l'éducation... c'est tous des systèmes qui sont en train de s'écrouler. Ils s'écroulent devant nos yeux. C'est complètement en chute libre. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on est dans un bateau qui coule au Québec et au Canada aussi.
Est-ce que c'est pour ça que tu es parti?
Oui, c'est en partie pour ça. Il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'est bien, bien technique. C'est que moi, je voyage beaucoup. Puis, il faut que tu restes minimum 6 mois par année. Au Canada pour avoir tes assurances, être résident à assurance. Fait que déjà là, ça c'était un problème. Fait qu'il fallait que je trouve une solution. L'autre chose, c'est que depuis la COVID, disons ça comme ça, là, sans partir sur un autre sujet houleux, j'ai développé une maladie chronique, de douleur chronique, puis j'ai aucun service au Canada. J'ai tout essayé. Fait que moi, j'étais comme sur le bord de me suicider, là, parce que moi, je voulais pas... Tu peux pas vivre comme ça, je pouvais pas vivre comme ça, je dormais plus. Fait que je suis allé à la recherche de médecins qui avaient des connaissances là-dedans. Fait que traitements médicaux, c'était une priorité. Tu peux pas avoir accès à des médecins. T'as pas de médecin de famille, t'as pas de spécialiste. T'es liste d'attente pendant 6 mois, ils donnent de la morphine pendant 4 mois. Tu peux pas faire ça. Fait que bref, moi, j'étais vraiment sur le bord de la mort. Là. C'est la deuxième grosse raison. Système. Et la troisième, c'est carrément climat, le climat pour travailler.
Ouais.
Moi, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai toujours aimé ma job. Puis j'ai tout le temps parlé grosso modo des mêmes genres de thèmes. C'est de la psycho de base, tu sais, adaptée à ma pédagogie, mais il n'y a rien de farfelu là-dedans. Mm-hmm. Mais là, depuis 3-4 ans, c'est comme la fin du monde, tu sais, de dire qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des différences cérébrales entre les hommes et les femmes, des différences cognitives, des différences biologiques, des différences de personnalité. Là, c'est rendu tout à tel enfer de parler de psychologie, puis tout le monde s'invente connaissant, puis là, c'est... Bref, c'est rendu... Tout mon travail prenait une autre tournure, puis c'est comme, tu marches sur des œufs, ça va être compliqué, là, t'as un article ici, oups, là, t'as un nouveau thread contre toi qui est parti. Bref, tout ça ensemble, moi, je le voyais pas, tu sais, je le voyais pas, puis...
Donc, c'est assez récent, ça fait pas longtemps que t'es parti.
Ouais, c'est 2 ans.
OK, OK. Est-ce que ta santé va mieux?
Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Okay. Je veux dire, je suis soigné, je peux texter mes médecins, je peux. je vois mon chirurgien.
Surréaliste, texter son médecin, genre, ça se peut même pas ici. Non,
mais c'est quand tu sors de ce système-là que tu réalises ce qui se passe au Québec. Quand tu es dedans, tu penses que le tiers-monde est ailleurs. Quand tu sors de là, tu réalises qu'une partie du tiers-monde est au Québec, là.
Hey, vraiment, écoute, moi aussi, j'ai voyagé, pas autant que toi, mais j'ai voyagé énormément avant d'avoir mes enfants. Puis, tu sais, je me rappelle une fois, on était super malade, moi, puis mon chum aux Philippines. On est allé dans un hôpital super boboche. Ouais. On aurait dit qu'il y avait une bombe qui avait explosé dedans, mais ça a pris 5 minutes. On avait vu le médecin, on est sorti de la prescription pour nos antibiotiques. On avait une sinusite, les deux. Puis, ça avait coûté 5$ là, pour un sac d'antibiotiques pour le mois. Puis, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on réalise à quel point ça coûte hyper cher ici, mais tu sais, on le paye quand même dans nos taxes. C'est ça. Il faut sortir de chez soi pour s'apercevoir à quel point ça va pas bien. Puis tu dis que tous les systèmes s'effondrent. Je suis 100% d'accord avec toi. Et ça, tu m'amènes un peu à parler de la polémique qu'il y a eu parce que, bon, dernièrement, tu as été attaqué dans une série d'articles sur plusieurs années, dont un tout récemment dans Le Devoir par Nathalie Platte. Je pense que tu fais une plainte avec une autre psychologue. Là, vous faites une plainte. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi la polémique? Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Nathalie Platte, comme certaines activistes, féministes, ils pensent beaucoup à moi, semble-t-il. Je suis quelqu'un de... Oh, oui, c'est ça. Elle avait fait un article, il y a 2 ans, où elle me dénigrait, là, tu sais, puis bon, OK, tu sais, j'ai pas prêté plus d'attention que ça, tu sais. Mais il me semble que ce sont les mêmes personnes qui aiment bien réécrire encore et encore sur moi. Et là, elle a fait un autre article il y a quelques semaines sur le fait que je suis un charlatan narcissique, que j'abuse des gens, que j'enseigne comment abuser des gens. Donc, tu sais, quand on parle d'oppression, là, c'est comme, je ne suis pas un oppresseur, c'est que j'enseigne l'oppression. Donc, je suis comme l'oppresseur, comme... je veux dire, incroyablement puissant.
Sur les stéroïdes.
Oui, exactement. Donc, elle disait ça. Elle disait que... Dans
ça
le
s'appelle
fond, que...
Les conquérants du vide, en fait, le les titre de l'artiste, là, pour ceux qui veulent le lire. Ça.
Alors, moi, je serais un conquérant du vide, puisque je ne vends que du vide, puisque je n'ai pas de compétences.
Donc, c'est quand même très dégradant, même pour ceux qui te suivent, là, pour ceux qui prennent tes formations, parce que c'est il y a beaucoup de jugement envers ces gens-là aussi.
Oui, puis elle l'écrit carrément dans son article. Elle dit « Au-delà du mépris pour ceux qui suivent ces formations. » Donc, elle l'écrit ce mépris-là textuellement. Elle dit que les femmes n'ont pas le jugement pour s'apercevoir que, dans le fond, je suis incompétent parce qu'elles sont trop hypnotisées par mon physique. Donc,
par ton jawline, je pense. C'est ça, c'est ta
mâchoire. Oui, elle parlait de ma mâchoire. Je dis, vraiment, c'est... Tu sais, quand t'es rendu là, faut vraiment que t'aies plus grand-chose à dire, là. Quand t'es rendu là, faut vraiment que t'aies plus beaucoup d'arguments. C'est de la pure diffamation.
Ouais.
Et donc, tu sais, quand on parlait du manque de repères, c'est que là, on est dans une vague de narcissisme en ce moment, très activiste, et les repères ou les règles ne s'appliquent pas à eux. Parce que ce sont des personnes qui dénigrent ces règles-là, dont eux ont le pouvoir de cracher sur ces règles-là. Donc, elle peut cracher sur les règles légales, qui est de la diffamation. Tu ne peux pas faire ça, mais elle, ça ne la concerne pas. Elle est psychologue, elle est dans l'ordre des psychologues. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de condamner des pratiques reconnues par la psychologie ou de d'autres psychologues qui suivent ma formation. Mais elle, quand tu es narcissique comme ça, les lois ne s'appliquent plus à toi. Donc, que ce soit l'ordre des psychologues, le code déontologie, la loi, on est dans une dérive comme ça. Donc là, c'est ça qui a fait un peu la polémique, là, puis que Là, mes étudiants, ils l'ont pas accepté. Ils trouvaient ça, parce qu'eux autres, évidemment, ils me connaissent, on se voit souvent là, dans les formations.
Ouais.
Donc, il y a eu 1000 personnes qui ont signé une plainte à l'Ordre des psychologues du Québec et au Devoir. Donc, c'est 100% leur initiative. Ils se sont automobilisés, puis ils ont fait, c'est inacceptable. Fait,
bravo. Toi aussi, tu as répondu publiquement en faisant un vidéo, je pense, avec une psychologue. Donc, pour ceux que ça intéresse d'aller voir, pour étayer un peu ta pensée là-dessus, il y a quelque chose quand même qu'à nomme, je pense, qui est important. C'est cette fameuse tendance, justement, au fameux coach de vie. Moi, j'ai déjà fait aussi une sortie là-dessus parce que j'ai un petit problème avec ça. Je le reconnais. Je trouve que ça rencontre le phénomène des réseaux sociaux, des influenceurs où les gens ont besoin de se trouver leur foule, leurs amis, des gens qui va leur dire qu'ils sont donc bien beaux, donc bien extraordinaires. Puis, tu sais, je trouve que c'est de la fausse authenticité. C'est comme je me filme en train de pleurer pour que tout le monde me dise comment je suis tellement authentique. Tu sais, je me filme pendant que j'ai une montée de Kundalini, puis je fais un petit peu de sauce, puis là, je suis comme, je suis tellement dans ma spiritualité. Moi, ce mouvement-là me tape sur les nerfs solides. C'est pas la première fois que j'en parle. Alors, elle aurait pu miser bien plus dans le mille sans s'attaquer à toi, de parler généralement de cette espèce que je viens de faire, là, puis j'ai pas visé personne. Il y en a sûrement plein qui ont des noms qui leur popent dans la tête, là, mais je vais pas les nommer, ces gens-là, ça me sert à rien de faire ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, il y a un petit danger avec ça. S'il y a des gens à qui ça fait du bien là, de les suivre puis de prendre leur formation à 5 000 $ pour 4 jours au Costa Rica, là, allez-y, là. Mais moi, je trouve que c'est comme, il y a quelque chose, ça peut tomber facilement du charlatanisme. Mais c'est juste, c'est un petit peu niaiseux, elle s'en est pris à toi, qui a quand même une bonne crédibilité. C'est juste, elle dénonce un problème qui existe, puis elle te pointe toi, fait que c'est comme, ça marche pas. Mais je trouve quand même que ce phénomène-là des coachs de vie peut être un petit peu inquiétant. T'en penses quoi, toi, de ces coachs de vie-là?
Ben, je suis un peu à la même place que toi, c'est que, effectivement, la plupart du temps, c'est du charlatanisme. Mon opinion, c'est que c'est ça. OK. Parce que tu peux pas juste devenir coach de ce que tu veux, quand tu veux, avec presque pas d'expérience.
C'est ça.
C'est comme coach de vie en plus. Coacher la vie. Coacher la vie, tu imagines.
Wow.
Donc, c'est sûr que moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le fait de dire. Oui, des coachs, ça peut exister, puis c'est bien correct, mais ça dépend de leur formation, ça dépend d'eux autres, ça dépend...
C'est du cas par cas.
Oui, mais l'affaire aussi, qu'est-ce que les formations de coaching enseignent? Est-ce que ça repose sur de la science? Les gens qui enseignent le coaching, est-ce qu'ils connaissent la science? Est-ce qu'ils savent lire de la science? La plupart du temps, non. Ils ne savent même pas lire un demi-paragraphe d'article scientifique. Pour moi, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas enseigner quelque chose qui relève du comportement humain et donc de la psychologie, mais tu ne comprends pas ce qu'est la psychologie ou tu ne comprends pas ce qu'est, par exemple, une méthode scientifique. C'est impossible. Ouais. Si tu ne sais pas comprendre une méthode scientifique, des analyses statistiques de base, comment tu fais pour lire? Comment tu fais pour t'auto-éduquer sur les nouvelles découvertes scientifiques? Comment tu fais pour te tenir à jour? Ça veut dire que tu vends tes idéologies ou les idéologies que tu as achetées par le biais de tes formations que tu as eues. Donc, pour moi, ça, c'est du charlatanisme. Puis moi, je trouve ça correct de parler de ça. C'est vraiment correct. Mais comme tu dis, il y a une différence entre vouloir attaquer une personne, de parler d'un sujet qui est important. Ça n'a rien à voir. L'intention de l'un et l'autre n'ont rien à voir. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut parler de ce qui est crédible en coaching, de ce qui ne l'est pas.
Exact. Mais tu sais, tu parles, ces gens-là ne savent pas toujours lire des publications scientifiques, tout ça. Mais tu sais, l'équivalent aussi chez les psychologues existe parce que moi, j'ai pris beaucoup de... Moi, je crois à ça, la thérapie, fait depuis que j'ai 18 ans, sporadiquement, j'en fais. Puis à chaque fois, j'ai vu des psychologues, sauf une fois qui a été l'exception, j'ai été hyper déçue. Ça ne m'a pas fait cheminer. Je trouvais ça hyper académique. C'était très cartésien. Alors que j'ai eu des psychothérapeutes là, qui m'ont fait cheminer beaucoup plus. Puis d'ailleurs, justement, pendant les années COVID, je me suis fait attaquer par des psychologues qui ont fait un espèce de papier financé par l'UNESCO, là, complètement débile, je ne sais plus combien de pages, plus que 100 pages. Là. Puis là, ils faisaient des analyses là, des mouvements conspirationnistes du Québec, mais c'est toujours relié à la violence. Puis c'est ça qui est hyper dérangeant parce que moi, j'ai jamais, mais au grand jamais, été dans la violence, au contraire. Là. Puis là, ouais. Tu sais, c'était comme du moment. Puis le critère numéro un d'être un complotiste, c'était vous remettez en question votre gouvernement. Fait que du moment que tu te poses une question, là, déjà, tu étais sur la pente descendante de la grande spirale de l'horreur d'être un complotiste. Puis moi, j'étais dans ce document-là, puis c'était signé par des psychologues. Puis je me disais, premièrement, c'était vraiment pas nécessaire que mon nom soit comme, il y avait, je sais pas combien, on était là, une cinquantaine. Là. Mais pourquoi mettre des noms? Parce que là, après, tu sais, moi, c'est mon image publique. Là, je suis associée à des mouvements de radicalisation puis de violence au Québec. Puis ça n'a aucun, mais aucun rapport avec ce que je fais. Puis là, tu sais, c'est là que je me dis, ces gens-là, ils ont pris le titre de psychologue. Ils brandissent le titre, fait qu'ils ont l'air crédibles, mais c'est un tissu de mensonges, puis c'est de la diffamation, c'est complètement ridicule cet article-là, puis il y a encore du monde, des fois, qui me le sortent, mes trolls, là, sur les réseaux sociaux. « Ah, cette fille-là est vraiment pas crédible, elle était dans ce document-là. Vous savez, vous avez jamais rien écouté de ce que je fais, vous connaissez pas mes arguments, vous avez jamais écouté mes invités. » Fait que, tu sais, je trouve ça aussi dangereux que l'ordre des psychologues aussi peut donner un certain poids de crédibilité qui, en fait, fait que, comme tu viens de dire par rapport à Nathalie Platt, il oublie complètement l'éthique de ce qui vient avec être un psychologue.
Ouais.
Comme tu l'as vécu, là.
Ben, c'est ça. Encore une fois, là, quand on parle de manque de repères, c'est qu'on crée des repères qui font notre affaire. Tu sais, en fonction de notre agenda, en fonction de se positionner comme étant les bons versus les méchants. Donc, les bons vont toujours sauver la population. Donc, les gens qui ont ce genre de narcissisme-là, puis cette espèce de fougue-là de condamner les méchants, se placent au-dessus des autres pour se donner le statut de sauveur. Donc, le statut de sauveur est une position de victimisation. Par contre, c'est la victimisation souveraine. C'est-à-dire, non seulement je sais ce qu'est la souffrance, mais je vais sauver les autres. Mais c'est quelque chose qui est auto-glorifié. Et c'est très relié avec le statut officiel. C'est-à-dire, quand tu as un diplôme, quand tu as une certaine reconnaissance sociale, c'est très facile de prendre ce tremplin-là et mettre ça de l'avant. Donc, il y a beaucoup de médecins qui font ça. Il y a des psychologues qui font ça aussi. Donc, c'est caractéristique de notre temps, ça.
Oui, c'est ça, le fameux papier qui donne tellement de crédibilité. Mais tu sais, depuis tantôt, ça fait quelques fois que tu parles, puis je pense à Nassim Haramein. Je ne sais pas si tu connais Nassim Haramein.
Non, je m'excuse.
Ah ben c'est un Québécois extraordinaire que j'essaie de recevoir, mais je n'ai pas réussi encore. Mais c'est un physicien qui est autodidacte. Mais c'est un cerveau extraordinaire. Mais justement, tu sais, il y a de la misère à... Non, il n'y a pas de misère. Il est très reconnu, mais il est quand même... Il dérange parce qu'il a pas pris le chemin officiel du papier, tu sais. Mais tu sais, je pense aussi que tu peux... Ben, c'est un exemple, puis je suis sûre que bon, plusieurs qui me suivent vont faire... Nassim est un bon exemple de... Tu peux aussi avoir un cheminement personnel. C'est pour ça que le terme coach de vie me titille un petit peu comme toi.
Ouais.
Mais je pense que tu peux trouver une personne qui va te faire cheminer, qui va t'aider à t'autoréguler, à trouver des outils, puis qui ne sera pas forcément avec le diplôme officiel de l'Université de Montréal, par exemple. Fait que je donne quand même une crédibilité à quelqu'un qui a un parcours différent. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, c'est du cas par cas. Mais on est dans une ère où il faut vraiment faire attention parce que je trouve que souvent, ça revient à ce fameux narcissisme dont tu parlais. Avoir un besoin constant de reconnaissance publique, d'avoir plus de likes, d'avoir... Tu sais, c'est malheureux, mais je trouve qu'il faut tout le temps comme vérifier avec son compas intérieur c'est quoi la véritable intention de la personne que je suis en train de suivre, puis est-ce que ça résonne avec moi ce que je cherche en ce moment, tu sais. Et sinon, tu
perds. Oui, c'est ça. Je pense que l'intention est super importante. Puis, tu sais, il y a des personnes qui, oui, ils ont beaucoup de diplômes, qui sont compétentes, puis il y en a qui ont beaucoup de diplômes qui ne sont pas nécessairement compétentes. Tu sais, dans la sphère humaine, dans la sphère de l'aide humaine, c'est tellement compliqué parce que même juste des connaissances scientifiques ne te donnent pas nécessairement l'habileté à aider d'autres personnes. Mm-hmm. Aider une autre personne, c'est vraiment dur. Tu sais, il y a vraiment... Juste l'intervention, juste le type d'écoute que ça prend, créer de la sécurité, créer de la confiance, créer tes timings d'intervention, comprendre tout ça. Dealer avec des humains, c'est vraiment dur. Et moi, je ne pense pas qu'il y a toute la formation nécessaire, même au doctorat en psychologie, pour bien faire ça. Il y a un manque, il y a un manque là-dedans. Il faut aussi se méfier à ceux qui n'ont aucun diplôme et qui se disent qu'ils sont extraordinaires. Non plus. Mais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme officiel, mais ils ont certains talents, tu sais, ils ont une certaine capacité de comprendre, de soutenir, tu sais, qui font des choses qui sont bonnes. Mm-hmm. Alors, c'est compliqué, l'aide humaine, puis je pense qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être utiles là-dedans, tu sais, voir le track record d'une personne, qu'est-ce que la personne fait, ça fait combien de temps qu'elle fait ça, est-ce qu'elle a des témoignages, est-ce qu'il y a des preuves de son aide, est-ce qu'elle a des formations, c'est qui ses mentors, c'est qui ses formateurs principaux, tu sais, il y a plein de façons que tu peux évaluer pour regarder si une personne peut être compétente pour ton besoin à toi, puis tu sais, de l'aide humaine, c'est quelque chose qui est assez exploratoire. Des fois, ça ne clique pas entre deux personnes. Des fois, ça clique avec une autre, tu sais. Y a des gens ça les a aidés beaucoup, là, le centre de relations d'aide. Puis, il y en a d'autres moins. Mais tu sais, il faut que tu te mouilles un petit peu pour au moins essayer de voir quelque chose là-dedans.
Oui, puis ça peut être ponctuel. Tu sais, dans le sens, moi, le CRAM, j'ai adoré ma première année, mais j'aime pas du tout l'approche. J'aurais jamais voulu devenir TRA. Puis pendant mes études, j'ai fait, ben c'est pas pour moi, mais j'ai adoré ma première année. Tu sais, dans le sens qu'il y a aussi tout le facteur que ça peut t'aider à un moment dans ta vie. C'est merveilleux, mais ça veut pas dire que tu es obligé de faire tout ça toute ta vie, tu sais.
Mm-hmm. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut continuer à parler de ça. Tu sais, comme des conversations comme on a, ça fait juste comme guider un peu les gens, d'avoir au moins certains réflexes pour pas tomber dans des trappes à, tu sais, de charlatanisme, là, puis de gourou de ci, puis de gourou de ça, puis de mode, puis de formation de machin, là, au Costa Rica qui va débloquer quelque chose. Tu sais, il y a des modes comme ça, puis, tu sais, il y a différentes approches qui sont à la mode, ça dure un 5-10 ans, puis après ça, c'est d'autres qui remplacent, tu sais.
Ouais.
Fait que t'as un paquet de modes comme ça. Fait que quand quelque chose devient à la mode, moi, je dirais aux gens de juste garder un petit bémol. Une mode, c'est pas bon signe, normalement. Parce que, tu sais, la science, par exemple, c'est pas une mode. C'est pas supposé être une mode. C'est pas supposé bouger beaucoup, la science. T'es pas supposé, là, à chaque année, trouver des nouveaux articles qui révolutionnent le monde.
Mais on l'a fait. On l'a fait avec l'identité de genre. Tu sais, il y a de plus en plus de science qui supporte l'idéologie de genre. Mais quand tu regardes d'où vient le financement, c'est un financement qui est déjà intéressé par des compagnies pharmaceutiques qui font énormément d'argent avec les bloqueurs d'hormones, avec les chirurgies, avec... Il y a tout ça. C'est pour ça que tu parles de science depuis tantôt. Puis bon, moi, je fais partie de celles qui trouvent qu'on s'en va dans une idéologie avec la science. Maintenant, la science a un S majuscule, puis c'est notre nouveau dieu. Puis, tu sais, je pense à Robert Kennedy Jr. qui a dit, je trouvais ça vraiment tout à fait simple. Il disait, tu sais, il a fait un méga procès contre Monsanto, si ma mémoire est bonne. Puis il disait, tu sais, d'un côté, il y avait les experts qui étaient en faveur de, mettons, Monsanto. Puis de l'autre côté, il y avait des experts contre Monsanto, puis les deux, on était des experts, il y avait des Stanford, des Harvard, tu sais, c'était toutes des grandes universités, mais on dit exactement le contraire, tu sais, fait qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est que tu peux trouver, même avec la science, des arguments pour détruire l'autre, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, puis toujours ouvert au débat.
L'affaire qui est très mystérieuse, je pense, pour le grand public, c'est qu'il y a de la bonne science et de la moins bonne science. Donc, science, ça veut pas dire grand-chose, OK? Mm-hmm. Je te donne un exemple. Mettons que je réunis 10 enfants de 10 ans, puis là, j'essaie de voir si les bonbons sont bons pour la santé. OK? Puis je veux faire ça scientifiquement. Fait que là, je vais faire manger des bonbons aux enfants, puis là, je vais leur poser une échelle de questionnaire, je vais faire une méthode statistique pour dire oui, en moyenne, les enfants étaient contents, étaient satisfaits de leurs bonbons. OK? Je peux te prouver que les enfants ont dit oui, qu'ils sont contents de leurs bonbons, tout ça. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai démontré que les bonbons sont bons pour les enfants? Non, j'ai juste montré que les enfants y ont dit qu'ils avaient aimé leurs bonbons. OK? Oui. Alors, c'est un exemple qui est ridicule. Imagine un thème hyper, 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 hyper complexe. C'est ce genre d'affaire-là qui est, dans le fond, pas de la vraie science.
Ouais, ouais.
Oui, ta mesure est vraie, mais ce que ça veut dire, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment difficile de départager de la science qui est crédible de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment, vraiment dur. Par exemple, concernant le genre, après 2010-2012, c'est très difficile de trouver quelque chose qui est hyper crédible. C'est trop biaisé. Avant 2010, les choses étaient beaucoup plus nuancées, c'était beaucoup plus solide. Maintenant, si tu veux dire certaines choses dans ton article scientifique, tu seras tout simplement plus publié.
Exact. Ça a été dénoncé par beaucoup, beaucoup de gens, ça.
Oui. Donc, tout ça, il faut savoir ça. Le grand public, comment tu veux qu'ils savent ça? T'sais, c'est comme, ben oui, regarde, il dit que c'est de la science. C'est scientifique, qu'est-ce que je te dis?
Il y a une experte, à tout le monde en parle, qui est allée dire que la science supporte le spectre du genre. Ah, OK, bien, tout le monde va faire, mon Dieu, mais là, d'abord, c'est parce que je suis vieux, je ne savais pas, puis là, je vais changer mon idée.
C'est ça. Donc, c'est facile de dire ça, puis d'inviter qui tu veux pour dire n'importe quoi. Puis, même moi, il y a des questions que je me dis, quoi, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis je me dis, comment je vais me faire ma propre idée? Puis là, faut que je rentre des jours et des jours à lire des affaires. Puis des fois, je dis, comme, je suis même pas capable de faire la différence entre ce papier-là et ce papier-là. Fait que je suis même pas capable de me positionner tellement que c'est des connaissances, des fois, qui m'échappent. Puis j'ai besoin d'aide, tu sais, pour interpréter tel genre de stats.
Mais tu as quand même les connaissances de savoir que tu n'es pas capable de prendre une position là-dessus, alors que la majorité des gens vont juste avoir une opinion parce que, ben, c'est l'opinion du jour.
C'est ça. Puis aussi, ça prend du temps. Hein. Lire,
ben oui.
Ça prend du temps. Ouais. Lire un article scientifique, ça peut me prendre 3 jours, tellement que c'est dense. Puis que tu lis deux phrases, je n'ai pas compris, puis je préfère à 2 autres articles. Il faut lire les 2 autres articles, ça te prend un autre 24 heures pour dire, OK, là, je comprends quelle phrase il voulait dire. Là, tu continues. Fait que les gens ne lisent plus. Les gens vont sur les médias sociaux, sur Facebook. Les gens ne lisent plus. Fait que les gens, ils lisent encore moins de la science. Fait que si tu n'as pas la capacité de lire et de te faire ta propre opinion, tu es fini. Tu vas juste acheter l'opinion de qui t'aime le plus ou qui fit le plus avec ce que tu penses déjà.
Oui, ouais, le biais de confirmation. Mmh. Oui, mais écoute, il y a plein de choses intéressantes que tu nommes, puis je ne veux pas te garder trop longtemps, mais je vais quand même prendre un petit moment pour adresser. Juste avant qu'on fasse l'entrevue, j'ai demandé dans mon groupe de mes abonnés mensuels s'il y avait des questions pour toi. Puis quand les gens ont su que je te recevais, les commentaires ont été assez mitigés, je te cacherai pas, parce que tu as eu des prises de position quand même assez drastiques en octobre 2021 à l'émission de Marie-Claude Barrette, où tu disais que les... en fait, je vais te citer, parce que j'aimerais juste te donner le droit de réplique, parce que je sais que ceux qui me suivent vont se questionner pourquoi je t'ai donné la parole aujourd'hui. Tu as dit, quand tu prends une décision où tu vas te priver de ta job, de te mettre en détresse financière, il faut vraiment que ça soit rigide dans ta tête. Et c'est cette rigidité-là qui est le problème. Et plus tard dans la conversation, tu disais aussi que les gens, justement, se mettaient en position de victime, puis se tenaient en groupe, là, cette fameuse résistance contre le vaccin. Et toi, tu te positionnais en disant que tu n'étais pas vraiment d'accord parce que là, c'était au moment...
Je comprends à quoi tu fais référence.
Oui, parce que là, c'était un moment où la vaccination obligatoire avait été reculée de quelques semaines. Puis, ouais, excuse-moi, j'ai oublié de mettre en contexte. Puis, dans le fond, Marie-Christine te demandait est-ce que ça sert à quoi d'avoir reculé la date de la vaccination obligatoire? Puis tu disais, tu sais, c'est plus une question... de semaines rendues là, les gens qui ne sont pas faits vacciner ne vont plus changer d'idée. Puis là, t'expliquais un peu comment ils réfléchissaient. Tu as donc dit que c'était une forme de rigidité. Je pense que c'est ça qui a blessé certaines personnes. J'aimerais savoir si maintenant, rendu en 2024, comme la personne en question qui m'a cité l'article, elle t'avait écrit, fait que j'imagine que tu avais eu quand même un certain... le monde devait répondre quand même quand tu parlais publiquement de ces choses-là. Ça a toujours été des sujets sensibles. On était vraiment dedans. Là, 2021, on avait la face dedans. C'est ça. Là, maintenant qu'on est rendu plus tard en 2024, est-ce que tu as nuancé ta position? Puis si tu ne l'as pas nuancé, est-ce que tu veux l'expliquer peut-être davantage?
Je vais t'avouer que tu me lances un petit défi parce que j'ai de la misère à me remettre dans le flow de c'était quoi la discussion puis le mindset de la discussion. Fait que là, tu me sors 2 phrases, j'essaie de me reconnecter sur c'était quoi le propos, où je voulais en venir avec ça parce que là, je marche un peu sur des œufs parce que j'étais comme, quel était mon point à ce moment-là?
Oui, mais je peux quand même essayer de te remettre un petit peu plus dans le contexte parce que je pense que ce que j'ai compris, du moins, de ce que tu expliquais, c'était que tu disais que c'est... ces gens-là qui avaient finalement, parce que c'était des infirmières, là, qu'il y a eu une victoire. C'est Maître Manolé, d'ailleurs, qui a réussi à avoir cette victoire-là. Le gouvernement n'a pas renvoyé les infirmières parce que notre système de santé s'effondrait et ça aurait bien mal été s'ils avaient tout mis dehors. Finalement, les infirmières ont pu continuer de travailler, mais il y avait quand même, c'était rendu un stade où il y avait plein de monde qui perdait leur emploi. Là, tu sais, c'était rendu vraiment, là, les sanctions pour ceux qui ne se faisaient pas vacciner étaient immenses. Puis, tu disais, tu sais, ces gens-là, maintenant, ils ont eu le sentiment d'avoir une victoire. Donc là, ils vont se tenir ensemble, renforcer une certaine identité, un certain narcissisme, une position de victime, comme on parlait encore ensemble, toi et moi, de la victime. Je t'explique un peu ce que tu disais. Mais c'est sûr que je suis en total désaccord avec ce que tu disais. Fait, j'essaie de le dire le plus neutrement possible. Mais j'aimerais savoir, c'est ça, est-ce que tu considères encore que c'était de la rigidité mentale de refuser ce vaccin-là, dans un moment où il était encore en phase expérimentale, même avec le recul, est-ce que tu trouves que c'était de la rigidité ou tu peux comprendre que pour certaines personnes, il y avait des raisons comme moi qui essaie d'avoir un enfant, par exemple, puis qu'on savait que ça pouvait vraiment jouer très sérieusement dans le cycle menstruel des femmes. Maintenant, c'est un fait qui est connu, reconnu, tout le monde le sait. T'sais, il y avait quand même des raisons qui pouvaient être très, très prises au sérieux, mais à ce moment-là, tu n'avais aucune raison sérieuse. Tu étais juste un rebelle contre l'autorité si tu ne voulais pas te faire injecter. T'sais.
OK. J'ai une opinion sur le vaccin. OK? Est-ce que mon opinion sur le vaccin a changé? Je dirais oui, parce que moi, je considère qu'une des conséquences de ce vaccin-là, ou du moins ce que l'ensemble des spécialistes que j'ai vus, ma condition, a quelque chose à voir avec COVID. Okay? Donc, c'est sûr que moi, avec la maladie, la fibromyalgie dont je t'ai parlé un petit peu, c'est sûr que personnellement, ça teinte. Ça crée un biais défavorable dans ma perception à cause de mon histoire personnelle récente. Okay? Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Mais ceci n'est pas le propos. Le propos, c'est si on recule à un moment précis dans le temps, avec les données accessibles, moi, je ne trouve pas que le rationnel était là pour justifier un blocage tel. Donc, moi je pense pas ça. Moi, je pense que c'est plus relié à... C'est pas relié à des faits, c'est ça que j'essaie de dire. C'est relié au fait que moi, par exemple, moi, je veux pas le vaccin, puis c'est tout. C'est comme, OK, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il est pas bon. OK, mais pourquoi? Parce que là, il y a des articles qui disent que c'est pas bon. Quels articles? Quoi? De quelle façon?
Mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même, mettons, si on parle d'un principe fondamental dans la société, est-ce qu'on ne devrait pas avoir le droit de choisir pour nous-mêmes qu'est-ce qu'on juge bon ou mauvais pour notre corps, même si c'est considéré complètement farfelu pour d'autres?
Oui, je dirais oui, 100%. 100%. Donc, mais encore là, ceci n'est pas le point que je voulais amener.
Okay, excuse-moi.
Le point que je voulais amener, c'est de dire, si tu t'opposes à ce point-là, il faut que tu aies des arguments hyper béton autres que j'ai le droit, pas j'ai le droit. C'est comme mm-hmm. dans une situation complexe comme on est, il va falloir que tu ailles un peu plus fort que c'est à cause que j'ai le droit, puis moi je connais ça. C'est comme non. On ne connaît pas ça. Puis dire que j'ai le droit, c'est pas assez dans un contexte hyper complexe, dans un service, par exemple, de santé. C'est tellement d'une complexité que le simple fait de dire moi je refuse, puis j'ai des droits, c'est comme non, moi je suis pas d'accord avec ça.
Tu demeures pas d'accord avec ça?
Pardon?
C'est ta position. Là. Tu demeures pas d'accord avec ça, même avec le recul. J'ai juste nuancé ce que tu viens de dire. J'ai été certaine de bien t'avoir compris.
Ce que je veux dire, c'est que si tu te permets d'être à contre-courant comme ça, puis on suspecte que le monde est en crise, il y a plein de gens qui sont touchés par ça, ça doit rentrer dans ta réflexion de dire quelle est la bonne action à faire en ce moment, puis évaluer un paquet de risques possibles, dont des risques, dont des choses rationnelles. C'est-à-dire, c'est quoi ce vaccin-là exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je dirais non à ça? Mm-hmm. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas fait pour la plupart des gens. Il y a des gens qui ont fait ce travail-là, qui disent, je sais exactement pourquoi je dis non à ce vaccin-là. Ce n'est pas la même psychologie de protestation. Et là est mon point. Tu as différents types de protestations, mais toutes les formes de protestation ne sont pas égales. Ça dépend des arguments que tu fournis pour dire « je m'oppose ». Tu t'opposes pourquoi? Il y a des gens qui s'opposent sur tout. Aussitôt qu'ils se font forcer quelque chose, même quelque chose de bon, ils vont s'opposer. Tu fais « mais pourquoi? » Parce que c'est mon choix. C'est comme, ça ne peut pas être ça. Là. Ça ne peut pas être simple que ça, aussi simple que ça des conversations entre humains. Il faut que tu puisses dire qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, je dois te montrer ton point. Puis il doit y avoir la flexibilité de la discussion là-dedans. Mais si tu n'as pas ça, puis tu dis non, parce que j'ai décidé, puis c'est mon droit, c'est comme on empiète sérieusement sur le mécanisme nécessaire pour veiller au bien-être des gens en général dans une situation complexe. Puis je suis le premier à reconnaître que c'est une situation complexe, mais. Moi, ce que j'ai décrit, c'est les formes d'opposition ne sont pas toutes égales et il y a des oppositions qui ne sont pas basées sur quoi que ce soit. Et que dire « ouais, mais ça, c'est mon droit », moi, je ne pense pas que c'est un argument suffisant pour juste dire ça dans un contexte extrême comme ça.
Je comprends bien ta position. Merci de l'avoir expliqué. Dans le fond, moi, ce que j'entends de ce que tu as perçu peut-être des gens qui refusaient le vaccin, c'est pas ce que moi j'ai reçu. Même, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Pourquoi refuser le vaccin? » Puis je commençais justement en disant, tu sais, c'est pas toute une gang de jeunes frustrés dans leur phase du non qui font juste dire non parce que moi, je dis non parce qu'on m'a forcé à le faire. Justement, tu sais, il y en a une méchante gang qui était... Justement, bon, en tout cas, bref, je ne vais pas tomber dans ça, mais je pense que c'est important pour moi de te le nommer parce que je parle pour ceux qui me suivent. Mais moi, j'ai été à Ottawa, mettons, 7 jours sur 23 pendant le convoi. J'ai rencontré tellement de gens. Le papa d'un petit garçon qui était mort suite à l'injection, même il poursuit le gouvernement, puis il y a vraiment un papier du médecin qui certifie que son fils est mort à cause de l'injection. Il s'est fait vacciner parce qu'il voulait continuer de jouer au hockey. Tu sais, il y a eu des victimes, il y a eu des... Puis ces victimes-là sont sans voix, justement, parce que on n'a pas le droit de dire ça dans les nouvelles, ça ne va pas sortir. Fait que, tu sais, il y en avait vraiment beaucoup qui avaient des arguments. Je connais plusieurs personnes qui m'ont écrit, ils ont fait des paralysies de Bell, qui ont perdu l'odorat, qui ont, en tout cas, le zone, plein d'affaires qui ont eu suite à l'injection. Pour moi, tu sais, moi, en plus, étant dans la sphère publique, je reçois énormément de témoignages de gens qui ont été très, très, très souffrants, très isolés, des gens qui ont pensé au suicide parce que leurs parents les invitaient même plus à Noël, leurs propres amis ne leur parlent plus. J'ai été très touchée par la violence, l'ostracisme que ces gens-là ont vécu. Puis, ils ne prenaient pas cette décision-là parce que c'était le fun. C'était vraiment pas le fun. C'est vraiment probablement un des passages les plus difficiles que ça a été. Puis, tu sais, justement, c'est mes valeurs d'intégrité, puis moi, c'est mon intégrité, fait je la choisis, mais mon Dieu, ça coûte cher, l'intégrité. Il y en a qui ont perdu des jobs vraiment très bien rémunérés. Fait, bref, c'est ça, je voulais nuancer parce que, honnêtement, mettons, j'en ai rencontré là, du monde qui faisait comme, qui était la description de ce que tu donnes, non parce que non, mais très peu, très, très peu. La plupart des gens que j'ai rencontrés, je trouvais qu'il y avait des solides bons arguments de ne pas le vouloir, ce vaccin-là, puis on aurait dû juste faire... Vous avez fait votre... T'sais, à la limite, je pense pas qu'il y a autant de monde qui ont argumenté pourquoi qu'elle allait se faire injecter. T'sais, ça, c'était comme, OK, c'est correct, on y va, puis je vais prendre une photo, puis là, tout le monde va me dire, je suis donc bien hot, j'ai eu ma deuxième dose. Mais tu sais, d'un bord comme de l'autre, on devrait affiner notre esprit critique, puis qu'on fasse une décision en faveur ou en défaveur. On devrait quand même l'avoir décortiqué, avoir écouté des gens qui sont en faveur, des gens qui sont, des sources de nouvelles qui disent que c'est bien, des sources de nouvelles qui disent que c'est mal. En ce moment, tu sais, je trouve pas qu'on était dans la nuance ni dans le mainstream. Là. Tu sais, les gens qui sont allés se faire vacciner ne savaient pas forcément ce qu'ils faisaient. Là.
OK. Je peux pas m'empêcher de réagir à ce que tu dis, puis parce qu'on a une opportunité là, d'aller dans quelque chose. Là.
Oui, mais puis je respecte le fait qu'on n'ait pas la même posture. Là. On n'est pas obligé de se chicaner.
C'est qu'on a principalement la même posture. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a principalement la même posture.
Est-ce un problème?
Non. Oui, si on ne le sait pas. Alors, il faut vraiment que départager des affaires, OK?
OK.
Il y a des gens, beaucoup, OK, qui disent qu'ils ne voulaient pas le vaccin. Et ils vont tous et toutes dire qu'ils ont des bons arguments, OK? Dans mon livre à moi, la plupart, ce ne sont pas des vrais arguments parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un bon argument scientifique de ce qu'il n'est pas.
Donc, tu parles d'un bon argument scientifique foncièrement?
Oui. On parle d'un argument rationnel. Rationnel. Est-ce qu'il y a un vrai danger? Oui. Lesquels? Pourquoi? Quelles statistiques? Où tu as vu ça? Parce que juste pour avoir cette info-là, là, bonne chance d'avoir l'information. OK? Fait que ça, c'est juste avoir un critère objectif de dire voici sur quoi se fonde ma position. La plupart des gens disent qu'ils ont des bonnes raisons, mais tu fais comme pousse donc plus loin ta bonne raison. Où tu as vu ça? Ils ne peuvent pas répondre. Bon, ben là, c'est évident, là, tu sais, il y en a plein que. Ils ne peuvent pas répondre. Moi, pour moi, ce n'est pas une bonne raison. Une personne qui dit que c'est une bonne raison, pour moi, ce n'est pas nécessairement une bonne raison rationnelle, scientifique. Parce que, un, l'information est dure à lire, dure à trouver au Canada, hyper dure à trouver. Guillaume, aujourd'hui, avec 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je te dirais, je ne suis pas super content dans la condition physique dans laquelle je suis. Maintenant, j'ai accès à des données différentes maintenant. Mais ça, c'est ma position personnelle sur le vaccin, OK?
Ouais.
Mais à ce moment-là précis, la plupart des gens qui étaient contre n'ont pas de raison rationnelle. Si ce n'est pas une raison rationnelle, c'est quel type de raison? C'est des raisons qui sont de type émotionnel, déguisées sous forme d'une rationalité.
Mais le principe de précaution fait partie de la science quand même, ne sachant pas encore à moyen et à long terme les effets de cette expérience. C'est quand même expérimental. On aurait pu faire prévaloir le principe de précaution.
Encore là, quand tu dis précaution, OK, ça a l'air un mot simple. Oh oui, il faut prendre nos précautions. Explique-moi qu'est-ce qu'une précaution. Comment tu mesures ta précaution? Quels sont les critères de tes précautions? Quelles sont tes zones de risque quand tu vas me dire « oui, mes précautions sont prises ». Répondre à ça, c'est un débat scientifique. Ouais. Les gens ne sont pas équipés pour dire ça. Fait que quelqu'un qui utilise le mot « précaution » pour défendre cette position-là, je m'excuse, mais ça ne vaut rien.
Mais moi, toutes les questions que tu viens de poser, j'aurais été capable. Mais tu sais, j'ai reçu tellement de gens à mon podcast qui l'ont fait. Puis tu sais, c'est des gens qui ont quand même une renommée internationale. Fait que je comprends ce que tu dis. Mais je considère que je serai en mesure d'avoir le débat, peut-être pas scientifique, je ne suis pas une scientifique, mais je suis quand même une citoyenne qui a le droit d'avoir une position par rapport à « j'ai-tu envie de recevoir ou non une injection expérimentale? » Je t'obstine, mais je voulais pas
te couper. Non, c'est qu'on est à la même place. C'est que le droit fondamental de faire un choix, ça devrait être primordial. Son sentiment, c'est clair, OK? Donc, ça veut dire on est d'accord là-dessus. Toi puis moi, puis les personnes qui nous écoutent, moi, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il faut qu'un gouvernement fourre des affaires dans la gorge. Je ne pense pas qu'il faut faire ça. Je ne pense pas. OK?
C'était mal fait, disons.
Hein?
On pourrait dire que c'était mal fait du gouvernement parce que déjà, juste la façon qu'ils l'ont fait, plusieurs se sont braqués.
OK, puis je comprends. Je veux dire, moi, là, être premier ministre, tout ça, je ne dis pas que je fais le meilleur job. Je veux dire,
on ne tombe pas dans cet argument-là. Ça me dépasse. Tu as choisi de faire d'autres choses dans la vie, mais eux, ils ont choisi d'être politiciens. Fait que, c'est leur job.
Mais c'est pour ça que j'ai une limite dans mon opinion là-dedans.
Oui, je comprends.
Je sais mieux, je ne sais pas. Forcer du monde, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure affaire dans ce que je pense profondément. OK. Fait que si on est d'accord là-dessus. Moi, parce que là, tu as semé la graine avec un extrait de Marie-Claude. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une parcelle de la population qui n'est pas celle que tu reçois à ton podcast, qui n'a pas l'éducation des gens que tu reçois à ton podcast. Donc, les gens de ton podcast ne sont pas représentatifs de qui j'ai parlé. Donc, il y a une autre couche de la population qui ne sont pas en mesure de discerner un vrai argument qui déterminerait leur oui ou leur non. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas équipé à analyser ce choix-là. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas rationnel. S'il n'est pas rationnel, il est basé sur un mécanisme psychologique qui est plus une protestation, ce qui est mon point. Mais à part cet argument-là que moi j'ai fait, moi je suis d'accord avec le fait qu'on ne devrait pas forcer du monde outre mesure. Puis je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là de raisonnement. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et je pense que oui, il faut être capable de prendre des précautions. Tout ça, je suis d'accord avec toi. Mon seul point, c'est rendre ça clair et opérationnel, good fucking luck. That's my point. Puis si tu n'as pas ça, tout ce que tu as, c'est tes émotions. That's my point. C'est juste ça que je dis. Donc, moi, je ne vois pas beaucoup de points où on ne s'entend pas là-dedans. C'est juste que mon propos est vraiment plus précis que pro ou contre vaccin. Les gens sont contre ou correct ou pas correct. C'est plus précis que ça, le mécanisme que j'ai voulu identifier. Fait, à quelque part, merci de me permettre de préciser ça. Mais c'est très, très complexe.
Ben, je suis contente que tu puisses le faire. Puis je suis contente, justement, tu sais, c'est la première fois que je peux débattre un peu. En fait, j'ai eu un débat avec Naomi Wolf qui était vraiment super épineux sur mon podcast, mais c'est en anglais. Là, au moins, c'est la première fois que je peux m'obstiner un peu en français. Mais tu vois, Naomi Wolf, elle a exposé beaucoup les Pfizer documents, puis elle considère qu'on doit tous s'impliquer en politique. C'est la seule façon d'avoir des changements. Puis moi, j'étais en désaccord avec elle. Fait qu'on s'est obstiné. Puis tu sais, je voudrais donc qu'on puisse encore débattre et s'obstiner au Québec. Puis, tu sais, let's agree to disagree. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Je suis contente que tu aies pu aussi préciser ta pensée parce que, tu sais, je te sens... Bon, tu es un être extrêmement intelligent. Ça fait absolument aucun doute. Je t'écoute parler depuis tantôt. Puis, ton intelligence perce dans tous les mots que tu dis. Ça paraît que tu es brillant. Puis, je me dis, c'est pas vrai qu'on peut pas parler. Là, on peut parler, puis on n'est pas obligé d'en venir aux mêmes conclusions. J'espère que les gens qui écoutent vont du moins mieux comprendre ta position. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, ça permet de mieux comprendre comment tu te dresses ta tête, tu te fais ta tête sur cette idée-là. Puis comme tu dis, c'est extrêmement complexe. C'est super complexe. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trancher. Pour ça, je trouve ça tellement réducteur quand on dit les anti-vax. Écoute, j'ai voyagé dans une trentaine de pays. J'ai eu mes vaccins à chaque fois que j'ai voyagé. Puis là, je suis devenue une anti-vax tout d'un coup, du jour au lendemain. Je suis pas anti-vax. C'est pas ça être anti-vax. Mais tu sais, c'est ça. C'est je suis complotiste parce que je pense qu'il y a eu un complot. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'il n'y a jamais eu de complot dans l'histoire de l'humanité. Là, tu sais, c'est ça qui est ridicule. Fait que tu sais, c'est des termes très réducteurs qui fait qu'on n'a plus besoin de. D'ouvrir le dialogue, comme tu parlais, tu sais, la communication est complètement brisée. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'on rouvre la discussion. Puis d'ailleurs, tu sais, ça, je pense que c'est pas mal ta vocation dans la vie. Fait que ça a permis d'avoir une belle conversation.
Une discussion comme on a en ce moment, c'est parce que la base ou la motivation de base d'une discussion comme on a n'est pas de gagner.
Non.
C'est de dire qu'est-ce que tu veux dire exactement. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Puis écoute-moi, je vais essayer de te dire exactement ce que je veux vraiment dire. Puis on va essayer de voir si on précise au max, s'il n'y a pas une contribution à quelque chose. Mais si tu ne te rends pas là dans la conversation, ou si le but, c'est de gagner, c'est fini. Tout le processus par lequel ça s'opère, c'est fini. Alors que c'est ça qu'il faut garder de l'avant, c'est-à-dire, des fois, tu ne seras jamais d'accord avec quelqu'un.
À 100%.
C'est correct. Mais c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que plus c'est précis, plus c'est fort. Puis tu vas trouver un gain dans la conversation quand même. Un gain à quelque part. Tu sais? Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça important, les conversations, puis parler de ces affaires-là tabous. Parce que le monde arrête la conversation trop tôt. Comme tu vois, là, on allait changer de sujet, puis là, je suis fait non. Je suis pas sûr qu'on l'a terminé. Parce que je suis pas satisfait. Parce que j'ai l'impression qu'on a principalement des choses en commun. Fait que comment ça se fait que c'est comme on n'a pas fini la conversation. Sorry. Au moins, c'est important. Si on se donne du mal pendant une heure et demie, je suis en Afrique, il est tard le soir, pourquoi qu'on fait ça d'abord? On va essayer de se rendre à quelque part qui fait comme Christ, c'est intéressant. Non seulement la conclusion, mais le processus par lequel on est arrivé là, c'est intéressant, tu sais.
Mais le processus est tellement plus important, en fait, parce que c'est ça, dans le processus, tu peux te retrouver à nuancer encore plus ta position. Puis comme tu dis, si tu enlèves complètement, c'est très important ce que tu as nommé, c'est que ni toi ni moi, on veut gagner notre argument.
Exact.
C'est pas important pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens entendent les nuances qu'il y a sur ces arguments, sur ce sujet-là, qui a tellement divisé la société, qui a tellement brisé de famille, d'amitié. Puis, tu sais, c'est en se permettant de parler comme on parle, toi puis moi, en ce moment, que... Il y a peut-être des gens qui vont reprendre contact avec leurs parents aujourd'hui. Puis, tu sais, parce qu'il y a encore des gens qui ne se parlent plus depuis. Ça a brisé vraiment beaucoup les relations. C'est franchement triste. Écoute, je veux vraiment, je trouve que ça finit bien parce que je trouvais ça important de parler de ça. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Puis quand tu passes au Québec, je veux vraiment que tu saches que ma porte est grande ouverte. Ça me ferait vraiment plaisir de te recevoir. Si ça t'adonne, je sais que tu es un homme extrêmement occupé. Mais au plaisir.
Ça me fait plaisir. Je vais être de retour en octobre pour l'événement Y. Je ne sais pas si tu sais un petit peu l'événement
Y. Je sais que tu reviens en octobre, mais je ne sais pas c'est quoi l'événement Y. Tu peux en parler si tu veux.
En fait, j'ai créé la Journée internationale du courage et de la responsabilité individuelle.
D'abord, ouais, c'est pas rien.
parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque. Être courageux, prendre des responsabilités, avancer. Puis j'ai décidé de célébrer ça avec un événement qui s'appelle l'événement Y. Y qui est comme un chemin qui se sépare en deux, puis il faut que tu fasses des choix dans la vie, des choix difficiles. Et puis l'année passée, puis l'objectif de cet événement-là, c'est une genre de conférence, un séminaire toute une journée sur comment prendre des décisions, comment avancer. Le but, c'est de ramasser des fonds pour redonner aux écoles, parce qu'on sait que le système d'éducation et de la difficulté. Fait que l'année passée, on a recueilli plus que 100 000 $ qu'on a redonné aux écoles. Et là, cette année, ça va être au Centre Bell. Donc, on attend 10 000 personnes. puis, il va y avoir des invités assez hot.
Est-ce que c'est complet? Ou est-ce que les gens peuvent encore acheter des billets?
Les ventes ne sont même pas encore là. Elles ne sont pas encore lancées. Ça va être en fin mai que ça va être lancé. Fait que c'est ça. C'est l'événement Y. Fait que je vais être en octobre. Fait que je te ferai signe puis tu pourras venir. Je te laisserai un billet là, dans
le front. Ça me ferait vraiment plaisir de couvrir cet événement-là. En tout cas, on pourra s'en reparler. Mais c'est vraiment très, très cool comme initiative. J'avais vu que vous aviez ramassé 100 000 $ l'an passé. Fait que très belle initiative. Merci, Guillaume. Merci d'être un homme, un modèle. Parce qu'on en a
toujours.
On fait du mieux qu'on peut, exactement. Puis, écoute, au plaisir de te revoir, te rencontrer en personne. Bonne journée à toi.
Absolument. Merci de l'invitation.
Merci. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveutsavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, V-E-R-I-T-E. Merci!